les 150 ans de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, société savante et personnalité régionale. Rencontre scientifique organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, novembre 1873, novembre 2023, avec le concours de la ville de Bayonne. Les 150 ans de la SSLA à la Maison des associations de Bayonne, les 22 et 23 novembre 2023. Nous poursuivons aujourd'hui avec une nouvelle intervention consacrée à la Société des études historiques de Navarre, son histoire et ses objectifs. Une intervention d'Agustín González Enciso, professeur émérite d'histoire de l'Université de Navarre. Cette intervention a été donnée en langue espagnole.
La Société des études historiques de Navarre, también llamada SEHN, S-E-H-N, es una sociedad muy joven en este ambiente de sociedad savante de tanta raigambre como la de Bayona, la vasca, la de Zaragoza, etcétera, y la de Pau también, todas. Pues presentar la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra es como presentar casi a un recién nacido, porque es muy joven, y por lo tanto hay relativamente pocas cosas que decir de ella, ¿no? Bien, se fundó en 1988, hace solo 35 años, lógicamente para este tipo de sociedades que pretenden durar siglos, pues 35 años efectivamente es un recién nacido, ¿no? La idea de la sociedad había surgido 2 años antes del 88, a raíz del primer Congreso de Historia General de Navarra. Una serie de historiadores dedicados a la historia de Navarra decidieron hacer un Congreso de Historia General el año 86, y después de ese Congreso se propuso, se dieron cuenta por el éxito que había tenido, que había que crear algo que permitiera que esos congresos se repitieran. Y entonces se les organizó crear una sociedad que llamaron de Estudios Históricos de Navarra. El nombre no es muy imaginativo, pero es descriptivo de lo que se pretende. Una sociedad que se lograría fundar 2 años después, el año 88. La primera junta la presidió José Antonio Sayas, catedrático de Historia Antigua, y esa junta se comprometió a organizar el segundo Congreso de Historia General, que se haría el año 1990. Bien, desde entonces, y contando esos dos ya mencionados, se han organizado 10 congresos de Historia General de Navarra, siempre con un número de intervenciones superior a 100 personas, o bastante más, 120, 130 en algunos casos, en otros algunos menos. Y también se han desarrollado numerosas actividades de divulgación histórica en Pamplona y en muchos pueblos de Navarra. Esta intervención mía pretende, después de esta breve introducción, explicar los objetivos de la sociedad, su historia, que es muy breve, es la de las pocas actividades que realiza, así como acercarnos a su situación actual y a las perspectivas sobre su futuro. La sociedad es conocida como una sociedad cultural de iniciativa privada. La sociedad, de hecho, pertenece a sus socios, está reconocida por la legislación vigente y está registrada en el Registro de Sociedades de Navarra. Bien, estas cosas hay que decirlas cuando uno es nuevo, cuando lleva siglos, ya se da por supuesto, ¿verdad? Pero cuando nace, dice, oye, que he nacido, que estoy aquí y que estoy reconocido por la legislación vigente, ¿no? Bien, aunque sea una sociedad privada, recibe ayudas de todo tipo de instituciones, también las del Gobierno de Navarra o las de los ayuntamientos, cuando allí se hacen actividades, previa solicitud por las vías establecidas. Es decir, no contamos con ninguna ayuda preestablecida, sino que por el mismo camino, canal, por el que cualquier otra institución pueda pedir ayuda al Gobierno para organizar una actividad científica, pues eso mismo hacemos nosotros, seguimos ese trámite y pues habitualmente se reciben ayudas para esa actividad concreta, ¿no? Por otra parte, las autoridades navarras, las que sean, suelen asistir a las actividades más importantes, en particular en el caso de los Congresos Generales de Historia de Navarra, que es el objetivo fundamental de la sociedad. Bien, intentaré explicar cuatro cuestiones en particular. Punto uno, la fundación y objetivos de la sociedad, que ya he dicho algunas cosas. Punto dos, cómo funciona, sus socios, sus estatutos, su financiación. Punto tres, sus actividades. Para finalmente, punto cuatro, hacer una reflexión sobre el pasado y el presente en cuanto a las circunstancias que rodean las actividades de la sociedad. Bien, punto uno, fundación y objetivo de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra. Como he dicho, la idea que presidió el establecimiento de la sociedad y que sigue vigente era la de tener un órgano común de reflexión para todos los historiadores que se dediquen a la historia de Navarra, estén donde estén. Su actividad se mueve en el ámbito de la investigación científica de nivel universitario. Si bien sus socios y las personas que han colaborado en sus actividades no son necesariamente profesores de universidad. Hay todo tipo de personas dedicadas por afición o por profesión a la historia, ¿no? Y que hacen buena historia científica, ¿no? En todo caso, lo que se pretende es tener un marco estable de presentación y discusión de los avances realizados en torno al objeto central de la sociedad, que es la historia de Navarra. La sociedad no promueve la investigación directamente. Se supone que lo hacen sus socios, porque la mayoría de ellos, su profesión es ser historiadores, y si no lo son por profesión, repito, lo pueden serlo por afición, y ellos mismos promueven sus investigaciones. La sociedad no tiene la función de promover directamente la investigación, porque lo hacen sus socios, pero sí, a través de sus actividades, a través de sus convocatorias, facilita la relación entre esos investigadores, que podrían estar más o menos aislados, y facilita también la difusión de su investigación. Sí que la sociedad se compromete a organizar ese Congreso General de Historia, que sí que es una llamada a la actualización de las investigaciones de todos aquellos que se dediquen a la historia de Navarra. Que evidentemente hay muchas personas, no solamente en Navarra, sino también en España y en otras universidades de todo el mundo. Ya nos hemos referido a la fundación de la Sociedad de Estudios Históricos en el año 88. Quiero decir ahora que el impulsor fue el profesor Ángel Martín Duque, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Navarra, que actuó como presidente constituyente cuando empezó a organizarse la sociedad, antes de la formación de la primera junta, y también de sus discípulos más cercanos, que concitaron el interés de otros muchos investigadores para hacer primero aquel primer congreso general al que ya me he referido y después hacer que surgiera la sociedad. Cuando se fundó, todavía era una época en la que en España al menos estaban de moda los llamados congresos regionales, congresos de cada una de las regiones, congreso de Andalucía, de historia de Andalucía, de historia de Cataluña, de historia de Aragón, de historia de Castilla, etcétera. Y por eso ya se habían organizado varios en los años 70, sobre todo, y por eso finalmente se organizó aquel primer congreso de historia general de Navarra. Era un poco respondía a la moda de aquel momento, que era una manera de hacer patente la investigación que se hacía en esas zonas geográficas de España, ya comunidades autónomas, después del año 75, y al mismo tiempo era una manera también de responder a una moda todavía presente de la historia regional, la historia que provenía de aquel enfoque que había venido de la historia de la Escuela de los Annales de Francia, que había potenciado precisamente, entre otras cosas, la historia regional, ¿no? Bien, en efecto, estos congresos respondían a ese deseo, a esa necesidad de manifestar ante todos lo que en esa región se había hecho y también potenciar la historia de la región en concreto por oposición por complemento, a la historia de España. Es decir, se entendía que la historia de cada una de las regiones podía haber quedado oscurecida porque anteriormente se había hecho sobre todo una historia general de España o de Europa, pero no se había potenciado la historia local desde ese punto de vista. Y esa era la moda entonces, ¿no? Bien, esos congresos se pensó celebrarlos cada 4 años, aunque hay alguna excepción, como luego veremos, y son una ocasión perfecta, fueron y siguen siéndolo, para conocer la actualidad de la investigación científica sobre la historia de Navarra. Navarra no es una comunidad grande y tampoco son muchos los historiadores que se dedican a su historia fuera de la región, en términos comparados, claro, porque por ello la cadencia de cada 4 años pareció suficiente para que diera tiempo a que hubiera una producción científica novedosa en el siguiente congreso. La experiencia demostró que efectivamente se trata de un distanciamiento razonable para no cargar en exceso la agenda de los investigadores y que las aportaciones sean novedosas. Así pues, la fundación de la sociedad ocurrió de una manera sencilla, como efecto de una necesidad que sintieron unos historiadores y que de la que participaron otros muchos, y por esa preocupación científica, pues promovieron esa sociedad que tiene un gran interés para, sobre todo, para facilitar el compartir conocimientos con sus colegas y darlos también a conocer al resto de la sociedad. Punto 2. ¿Cómo funciona la sociedad, sus socios, etcétera, ¿no? Bien, la sociedad, la pertenencia a la sociedad es libre. Solamente se precisa pagar una cuota al año. Pero una cuota breve. En estos momentos tiene unos 140 socios, historiadores de procedencia variada. Dominan los navarros de residencia, pero también hay socios de todas partes. Y la sociedad se rige por unos estatutos que indican sus objetivos, los órganos de gobierno, el modo de elegir los cargos y otros asuntos exigidos por la legislación sobre sociedades. El órgano supremo de la sociedad es la asamblea de socios, que se reúne obligatoriamente una vez al año y también de manera extraordinaria cuando fuera preciso. Las decisiones se toman por mayoría absoluta, cada socio un voto, y la asamblea elige a los miembros de la junta directiva y tiene poder para modificar los estatutos y para todas las cuestiones más importantes. La asamblea es la soberana, ¿no? Bien, la sociedad se gobierna mediante una junta. La junta tiene entre 9 y 11 miembros y la junta es elegida por la asamblea. La elección se hace por candidaturas personales. Se pone la gente que quiere entrar y si hay más, pues se vota y los que más votos tengan entran y si hay menos, pues esos entran directamente si son aceptados, lógicamente, ¿no? Pero vamos, lo normal es que sean aceptados porque siempre se facilita el que los voluntarios entren a formar parte de la Junta cuando es necesario, ¿no? Es decir, no se elige una junta cerrada, no hay candidaturas, ¿no?, de presidente, ¿no?, sino que se elige por personas a título individual. Los miembros de la junta son quienes deciden los cargos. Una vez elegida esa junta, pues decide quién va a ser el presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero, etcétera. Y los demás quedan como vocales. La junta organiza las actividades anuales, decide lo que se hace o no, organiza también los congresos generales y gestiona el patrimonio financiero, y de todo ello da cuenta a la Asamblea anualmente. La permanencia en todos los cargos es de 4 años, renovables por otros 4, y para repetir hay que esperar, también hay una vacancia de 4 años para poder repetir si alguien lo desea. Como los miembros de la Junta no fueron elegidos todos a la vez, porque no hay una candidatura de junta, sino que es individual, pues es normal que todos los años haya que renovar parte de esa junta, lo cual pues facilita el que haya también frescura, porque siempre hay gente nueva y al mismo tiempo gente que permanece, con lo cual también se facilita la continuidad. Normalmente son los miembros de la junta los que buscan candidatos, pero siempre hay alguien que quiere, que se ofrece voluntariamente a formar parte de la junta, ¿no? Aunque la representatividad es puramente personal, ningún miembro de la Junta representa a nadie más que a sí mismo y a su deseo de trabajar por la sociedad, se procura que entre los miembros de la Junta haya personas pertenecientes a diversos estamentos docentes e institucionales de Navarra, Así hay profesores de nuestras tres universidades, la Universidad de Navarra, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Educación a Distancia, y también de centros de enseñanza secundaria y de otras instituciones culturales. Como digo, no representan a nadie, pero transmiten, obviamente, diferentes sensibilidades y posibles intereses que la sociedad intenta tener en cuenta en sus actividades para que también su oferta sea equilibrada, ¿no? ¿Cómo nos financiamos? Pues los fondos de la sociedad provienen de las cuotas de los socios, nada más, ¿eh? De ahí proviene el patrimonio financiero. En el caso de los congresos generales, también se cobra por la asistencia y por participar con ponencia o comunicación, pero esos ingresos se gastan en la organización del congreso. En todo caso, tanto para estos congresos como para cualquier otra actividad, también se buscan ayudas públicas o privadas que permiten aumentar el gasto y dar mayor relevancia a esa actividad en concreto, ¿no? A veces pues se pueden hacer actividades con instituciones interesadas y que pueden ayudar, por ejemplo, organizar ciclos de conferencias en distintos ayuntamientos de Navarra, y entonces el ayuntamiento pues lógicamente ayuda a organizar esos ciclos de conferencias, ¿no? El resto de los gastos, pues las cuotas de los socios dan para mantener la sociedad de sobra, ¿no? De hecho, la sociedad tiene muy pocos gastos fijos, no tiene local fijo, no tenemos sede, por ejemplo. La tuvo un tiempo, pero se mostró muy difícil soportar el gasto y se dejó. Los miembros de la Junta somos todos voluntarios y la mayoría de las actividades se hacen en lugares que no cobran por ello. Hay lugares en Navarra para este tipo de actividades que cualquier navarro puede solicitar y puede hacerlo libremente. También algunas instituciones ayudan, por ejemplo, ahora contamos con la colaboración del nuevo casino de Navarra, que acoge gustoso algunas de nuestras conferencias y presentaciones de libros. A veces hay que pagar a los conferenciantes que están fuera de Navarra, bien, pero esos pequeños gastos pues se pueden sufragar, como digo, con las cuotas de los socios. ¿Cuáles son nuestras actividades? La actividad fundamental de la sociedad, ya lo he dicho repetidamente, pero es que es así, es la organización del Congreso General de Historia de Navarra, que además es una marca registrada, el Congreso General de Historia de Navarra, en castellano y en vasco, marca registrada. Los dos primeros se llamaron así, primer Congreso de Historia General de Navarra y segundo Congreso, y se ordenaron de una manera clásica, pues secciones por épocas de las arqueología, prehistoria, historia antigua, etcétera. También historia de América, que en España siempre está presente la historia de América, como es lógico, y también había secciones de archivística y de historia del arte. Bien, se trataba de congresos generales, digamos, clásicos, donde se hablaba de todo, ¿verdad? De todo. Bien, la actividad de la sociedad, sin embargo, fue sensible a la evolución de la historiografía y de las modas. Ya dije antes que esos congresos habían surgido en una coyuntura concreta, hacia el final de esa coyuntura, la verdad. Y la historia general por épocas históricas era una manera de hacer historia más generalista que buscaba explicar precisamente épocas o incluso siglos concretos desde diferentes enfoques, ¿no? Sin embargo, ya a finales del siglo XX la historiografía había cambiado y los enfoques que interesaban a los historiadores no eran solo el tiempo histórico general, sino temas más especializados, ¿no? Por eso, a partir del año 96, los congresos generales se orientaron a temas más específicos en relación con asuntos que en esos momentos pudieran estar más de moda o que los organizadores pensaran que la historiografía sobre Navarra había desarrollado en los últimos años. Si, por ejemplo, en el año 96 el título del congreso fue Navarra y Europa, el año 98, ahí no, solo pasaba bien, pasado dos años, era Mito y realidad en la historia de Navarra, el año 2002 Grupos sociales, el año 2006 Navarra, memoria e imagen, etcétera. Como se ve, ya no se salía de la generalidad para entrar en cuestiones más concretas, interdisciplinares muchas veces y también diacrónicas. en los congresos de 2010, Navarra como espacio de cultura, y 2014, Navarra en un mundo global, se recuperaron secciones historiográficas, pero siempre que se estuviera dentro de ese ámbito. Los congresos de 2018 y 2022 se dedicaron a los conflictos civiles en la historia de Navarra y a viejos y nuevos espacios de frontera, y en esos congresos se organizaron por la convocatoria de mesas temáticas, más que la Junta organizara un tema y llamara a todos los ponentes, se convocaron a mesas temáticas y quien organizaba el congreso era en realidad cada presidente de mesa que se presentaba. Los contenidos de los congresos se han publicado en medios diversos que no son de la sociedad, pero están todos colgados en la página web de la sociedad y se pueden consultar, salvo el último que no ha sido publicado, pero sí ha sido grabado y están los vídeos en un canal de YouTube también de la sociedad. Bien, aparte de la organización de los congresos generales, que es su objetivo principal, la sociedad organiza actividades muy variadas de divulgación, como mesas redondas, conferencias, ciclos de conferencias sobre temas específicos de interés histórico o actual, presentaciones de libros y otras actividades en instituciones públicas y privadas y centros de enseñanza media y universitaria, que, como es lógico, no voy a detallar. Destaco, por ejemplo, los ciclos de conferencias sobre las reinas de Navarra en distintos ayuntamientos de la geografía local o las Olimpiadas Históricas, un concurso de historia con estudiantes universitarios, en concreto en la Universidad de Navarra. Y para terminar, el punto 4, como digo, la sociedad se fundó hace 35 años, pero el mundo ha cambiado bastante, no solamente en las líneas historiográficas, sino también en las actitudes a este tipo de sociedades. Esto se refleja en el público que asiste a nuestras actividades. Hay dos públicos: por una parte están los investigadores, que les interesan los temas científicos, pero luego está el público culto en general, ¿no? A los congresos van todos los historiadores profesionales porque el tema les interesa. A las demás actividades, en cambio, la asistencia es muy variada. El problema fundamental es que tenemos ahora nosotros, y no sé si esto será general, es la baja de socios. Muchos de los socios, sencillamente, pues por edad han fallecido o ya no tienen interés por edad. Bueno, van desapareciendo. Hemos tenido algunas altas, pero tenemos más bajas que altas. Lo que comprobamos es que a la gente joven pertenecer a este tipo de sociedades les interesa menos. Sí les interesan las actividades, porque cuando hay algo interesante van, pero no les interesa pertenecer a la sociedad y no les interesa sobre todo pagar la cuota, entre otras cosas porque no tienen dinero, lógicamente. Y también hay que tener en cuenta que la manera de investigar ha cambiado mucho en nuestros días. Que antes, la investigación era más general, pero ahora es mucho más específica. Entonces, antes un congreso general interesaba a todos, pero ahora un congreso general no interesa, lo que interesa es un tema mucho más específico, mucho más concreto. Bien, por eso ese problema existe. En cualquier caso, las actividades que se organizan siempre tienen la respuesta del público, se abren, por supuesto, al público en general y va mucha gente que no tiene nada que ver con la sociedad y que muchas veces ni conoce la sociedad, pero ha sido atraída por el tema de la conferencia o por el conferenciante en cuestión o por el libro que se esté presentando en ese momento. Sea como fuere, la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra es un referente en Navarra y hay personas e instituciones que desean también que la sociedad apoye sus iniciativas. Muchas veces nos llaman personas que dicen, bueno, queremos presentar un libro de historia, pero queremos que la sociedad apoye esta actividad, ¿no? Bueno, pues, o sea, que eso demuestra que efectivamente la sociedad es conocida, es respetada como una sociedad de prestigio, donde que organiza actividades de buena historia científica, y por eso mucha gente está dispuesta a que la sociedad siga existiendo y siga creciendo, y eso es lo que esperamos todos, que siga siendo un punto de referencia en la historiografía más seria y más profesional de Navarra, sobre todo a partir de los congresos generales, que, como digo, es la actividad fundamental que organiza la sociedad. Nada más, muchísimas gracias.
Vous venez d'entendre en espagnol l'intervention d'Agustín González Enciso, professeur émérite d'histoire de l'Université de Navarre, consacré à la Société des études historiques de Navarre, de son histoire et de ses objectifs. À présent, nous écoutons une intervention de Gonzague Espinosa d'Ansonneville, docteur en histoire, auteur, président de la Société de Borda. Il nous parle justement de la Société de Borda, un patrimoine landais au XXIe siècle. Gonzague Espinosa d'Ansonneville.
La Société de Borda donc a vu le jour à Dax par un arrêté préfectoral du 25 janvier 1876 autorisant un groupe d'intellectuels et de notables dacquois, notamment, je dirais, Monsieur Eugène Dufourcé, l'aïeul de Madame la présidente de séance, qui a été le deuxième président de la Société de Borda, mais aussi son fils Louis, qui a été le sixième président de la Société de Borda. D'autres notables dacquois comme Georges Camiat, dont mon collègue François Borde vous parlera tout à l'heure. Et donc, cet arrêt préfectoral a autorisé donc ce groupe d'intellectuels et de notables dacquois à se réunir pour l'étude des questions d'histoire, mais aussi d'archéologie et d'histoire naturelle, ayant trait au sud-ouest de la France en général et au département des Landes en particulier. La plupart de ces fondateurs étaient déjà membres de plusieurs sociétés savantes nationales ou régionales, notamment de la SSLA de Bayonne. Cela s'inscrivait dans le vaste mouvement d'intérêt pour l'étude scientifique et historique, quoique tardif dans le paysage français, qui vit naître, après la défaite de 1870, de nombreuses sociétés savantes. Aussi, la création de la Société de Borda a pu passer pour un événement important dans une ville qui, à la différence de Pau et de Bordeaux, n'avait ni tradition académique, ni universitaire, et encore moins de lycée comme Mont-de-Marsan. Pourtant, c'est bien dans le chef-lieu du département, donc Mont-de-Marsan, qu'a été créée la première société savante landaise, puisqu'une société des lettres, sciences et arts du département des Landes a existé entre 1867 et 1870. Elle a été fondée par les enseignants du lycée impérial, nommé par le ministre de l'instruction publique de Napoléon III, c'est-à-dire Victor Duruy. Tous ces enseignants étaient des républicains en devenir, mais cette société savante de Montoise périclita après la chute du Second Empire et sa fusion forcée avec la Société d'agriculture, réceptacle des notables conservateurs. Cet échec a laissé le champ libre à la Société de Borda, créée quelques années plus tard à Dax, une des deux sous-préfectures des Landes, ce qui est non négligeable lorsqu'on connaît la rivalité historique, économique et politique avec Mont-de-Marsan jusqu'à aujourd'hui. Cette identité dacquoise est renforcée par les deux parrains que se sont choisis les fondateurs, deux savants du siècle des Lumières, natifs de Dax, donc le chevalier de Borda, dont vous avez la statue à l'écran, l'ancienne statue qui a fait date entre 1891 et 1942, date où elle a été fondue par les Allemands, et son cousin Jacques-François de Borda d'Oro, qui était lui plutôt naturaliste. Ce qui fait que la Société de Borda est la seule à ne pas inscrire son nom dans une aire géographique délimitée, parce qu'elle n'avait pas vocation à l'origine à s'en donner une. Il a fallu attendre 1997 et l'ajout officiel du titre générique « Sciences, lettres et arts des Landes » pour permettre une identification plus conforme à la diversité des disciplines abordées et à son champ géographique d'action principal, même si elle continue à s'intéresser aux départements limitrophes qui correspondent grosso modo à la Gascogne occidentale. Enfin, l'ajout officieux de patrimoine des Landes sur la couverture du bulletin en 2009 répondait à l'objectif de rendre plus lisible l'objet de la société tout en rappelant qu'elle constitue elle-même un élément du patrimoine landais. Enfin, j'ajouterai qu'elle a été reconnue d'utilité publique en 1980. Les fondateurs se sont appuyés sur les recherches et les travaux de savants locaux du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle afin de poursuivre l'œuvre de ces scientifiques qui avaient légué leurs travaux et leurs collections à la ville de Dax, collections qui ont servi d'embryon à un musée municipal, l'actuel musée de Borda. Ils se réunirent autour d'activités de recherche qui sont publiées dans un bulletin trimestriel. Nous avons gardé ce nom et il n'est pas caduque, concernant pour celle de Pau. Et donc, ce bulletin a été créé dès sa fondation, donc dès 1876, et qui a continué de paraître sans interruption, sauf en 1912, puisqu'il était prévu cette année-là des tables analytiques, qui n'ont malheureusement jamais paru. Ses membres ont fondé également un musée, donc à distinct du musée municipal de Borda, recueillant les fossiles et les vestiges archéologiques locaux d'antiquité et de préhistoire issus de leurs fouilles. La société le géra jusqu'en 1979, date à laquelle elle a déposé ses collections au musée de Borda, musée municipal qui poursuit une politique culturelle lui étant propre. Il n'est donc pas surprenant que les premières préoccupations de la société de Borda ont été surtout relatives aux sciences d'observation, c'est-à-dire la paléontologie, l'entomologie, l'anthropologie, botanique, l'archéologique, minéralogie, zoologie, etc., etc. À ce noyau de notables sont venues s'agréger, au fil des décennies, de nouvelles personnalités venues d'horizons différents, des enseignants, des juristes, des ecclésiastiques remarquables, comme les abbés de Gers, d'Auger, Foy, tradition de prêtres érudits qui persiste encore aujourd'hui dans notre CA, puisque nous avons encore un ecclésiastique parmi nous, des Gascons actifs aussi, comme Isidore Salles. En 1929, la première femme à être intronisée sociétaire s'appelait la baronne de la Tolade, née Roc de Borda, qui a été vice-présidente de la société de Borda et de facto présidente de la société de Borda durant l'occupation allemande, après le décès de Louis Dufourcet en 1941. Néanmoins, l'histoire est devenue peu à peu le thème de prédilection de la société de Borda pour ne plus en bouger. Alors, pour reprendre ce qui a été dit ce matin par M. Michel Faure, c'est à peu près pareil, nous avons beaucoup d'articles relatifs à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, mais aussi nous avons, comme je disais à M. Dartiguelong tout à l'heure, nous avons aussi pas mal de communications sur l'archéologie, sur la préhistoire, du fait aussi que nous avons dans les Landes le centre de recherche archéologique, et qui fait que nous avons énormément de publications, ils nous font profiter de leurs découvertes. En parallèle, l'éventail des disciplines et des thématiques n'a cessé de s'élargir avec le temps, en couvrant tous les domaines et de la connaissance sur le département, au point qu'on a pu parler du bulletin Société de Borda comme d'une encyclopédie des Landes. Et je vous montre à ce sujet justement les trois dernières éditions du bulletin. Et donc, plus que jamais, ce bulletin reste l'âme de la Société de Borda et un vecteur de la vie intellectuelle et culturelle du département des Landes. Depuis 1992, sa couverture commémore presque chaque année un événement, une thématique ou une personnalité. Donc en 2021, nous avons commémoré le centenaire de Félix Arnaudin, donc grand chantre de la Grande Lande. En 2022, nous avons rendu hommage à Théophile Gautier via le Capitaine Fracasse pour les 150 ans donc, de la mort de Théophile Gautier, puisque le début du roman du Capitaine Fracasse commence dans les Landes entre Mont-de-Marsan et Dax. Enfin, cette année, nous avons choisi de représenter, de commémorer Napoléon III et les Landes pour les 150 ans de la mort de l'empereur des Français. Le bulletin a ainsi continué à accumuler les travaux reliés aux réunions mensuelles que la société suscite. À l'origine organisée presque uniquement à Dax, ces réunions sont depuis près de 30 ans décentralisées dans toutes les Landes et parfois au-delà, comme en 2009 à Anglette, mais aussi en 2011 à Cap-Sieux et dernièrement en 2018 à Orthès. Elles sont occasionnellement couplées avec des visites patrimoniales qui sont très suivies. Toutes ces manifestations sont gratuites et ouvertes à tous. Trois ou quatre communications originales en rapport avec les communes ou cantons traversés sont proposées. Borda sollicite des chercheurs travaillant sur la région, mais c'est souvent spontanément que ces derniers la consultent, car présenter un travail à la société de Borda laisse présager la publication d'un article d'une vingtaine de pages dans le bulletin trimestriel. Et du fait, les principes de la société de Borda restent toujours les mêmes, diffusion et accessibilité du savoir pour tous. Ces réunions décentralisées permettent ainsi de vérifier l'audience constante de Borda, mais aussi la curiosité du public pour son histoire et la culture locale. Et donc, ces réunions décentralisées, je vous ai fait un petit schéma sur une carte représentant les différentes communes où sont déplacées ces trois dernières années et aussi l'année prochaine. Donc, vous voyez que nous essayons de couvrir à peu près tout le département, même si, du fait que le bassin de population se trouve essentiellement au sud, hein, le long de la Dour, et notamment en Chalosse. Donc, nous essayons de couvrir à peu près tout le département. Mais ces réunions mensualisées et délocalisées sont à la fois une force, mais aussi une faiblesse, car avec le temps, il est devenu de plus en plus difficile de trouver suffisamment d'intervenants de qualité pour répondre aux attentes locales, ainsi que des thèses, publications qui peuvent faire l'objet d'un lancement officiel. Et parfois, ce travail est récompensé, comme le dictionnaire illustré de Buglos, puisqu'il a reçu en 2022 le prix de l'Académie nationale des sciences belles-lettres et arts de Bordeaux. Par la diversité de ses activités, par son dynamisme reconnu par tous, Borda reste un animateur de la vie culturelle landaise. En allant au contact de ses adhérents et de leur environnement, elle tient le lien avec eux, tout en suscitant de nouvelles adhésions par l'intérêt et la variété des questions abordées que l'on retrouve donc dans le bulletin. Cette mobilité est très importante, permettant de quadriller l'aire géographique que la société de Borda s'est dévolue. Pendant longtemps, en effet, la société a été associée à la ville de Dax en raison de la situation de son siège social, ce qui est non négligeable compte tenu de son éloignement du chef-lieu Mont-de-Marsan, du fait aussi du conseil départemental et surtout des archives départementales qui sont elles aussi un médiateur culturel. Qu'une société savante ait son siège dans une sous-préfecture n'est pas en soi une exception, hein, puisque nous avons ici l'exemple avec Bayonne, même si dans les Pyrénées-Atlantiques, nous sommes plus souvent dans le cas dans un département bicéphale, puisque aussi vous avez Pau hein, comme société savante, mais que la société de Borda représente le département depuis une sous-préfecture, en l'absence d'autres consoeurs dans le département des Landes, est plutôt singulier. Cet éloignement du chef-lieu, héritage de l'histoire, a pu susciter des volontés montoises de concurrencer la société de Borda sans toutefois y parvenir. N'oubliez pas non plus le rôle joué par les médiathèques communautaires qui se veulent également des médiateurs culturels. Les réunions décentralisées et l'ouverture de Borda à tous les horizons ont atténué cette identité dacquoise pour en faire celle de tous les pays landais. Cette mutation se ressent dans la géographie des sociétaires, hein, qui ne sont plus majoritairement dacquois depuis longtemps. À l'heure actuelle, ils sont à peu près un quart, avec, si je compte l'agglomération de Dax. Il en est de même de la majorité des membres du conseil d'administration et de son président actuel. Jusque dans les années 2000, la société de Borda a vu croître ses effectifs de façon importante. Nous étions en 1983 1900 sociétaires, avant de connaître, comme beaucoup, une longue et lente érosion. En 2003, nous étions 1300, et cette érosion a été accélérée par l'épisode du Covid-19. Et en 2022, nous comptions 806 adhérents à jour de cotisation, ce qui est encore important pour une société savante. Ce chiffre élevé reste un atout primordial. Depuis 2022, il est désormais possible d'adhérer en ligne à partir de notre site Internet, ce qui ouvre le recrutement à un plus large horizon. 65 collectivités publiques, par l'intermédiaire de leurs bibliothèques et de leurs médiathèques, ainsi que divers organismes sont abonnés à notre bulletin, ce qui est toutefois peu au regard des 327 communes existantes dans les Landes. Aussi, y a-t-il encore un travail de sensibilisation à faire de ce côté-là ? Un sondage en cours de réalisation de la sociologie des membres actuels, bon, actuellement je suis arrivé à 50% des effectifs, laisse paraître que la majorité sont des personnes retraitées, ce qui n'est pas en soi une surprise avec le vieillissement de la population. Le dernier sondage effectué en 1983, comme quoi ce colloque a l'intérêt d'actualiser nos effectifs et nos données, donc le dernier sondage effectué en 1983 montrait le contraire puisque 70% des adhérents étaient désactifs. Parmi les actifs d'aujourd'hui, on trouve une majorité de fonctionnaires, et parmi eux, les enseignants taillent la part du lion, tandis que les autres catégories socio-professionnelles sont assez équilibrées. On peut signaler qu'un tiers des adhérents sont des femmes, qu'un tiers des sociétaires habitent hors des Landes, ils représentaient la moitié il y a 30 ans. Ce sont souvent des Landais de naissance ou d'adoption, expatriés pour des raisons professionnelles ou familiales, qui sont souvent désireux de garder un lien avec les racines de leur département d'origine. Ces mobilités contraintes ou voulues sont un marqueur du changement de société depuis les années 1960. Maintenant, nous avons questionné justement sur le devenir des sociétés savantes, puisque sous peine de végéter ou de disparaître, il convient à nos sociétés savantes de répondre aux défis du XXIe siècle. Et j'en vois quatre principaux qui sont communs à tous. Premièrement, c'est la désaffection pour l'engagement associatif qui est un problème majeur. Elle est un marqueur du changement des mentalités, plus propre désormais à consommer que d'être de réels acteurs investis dans les activités associatives. Et donc, par effet pervers, elle limite, repousse, voire remet en cause une modernisation nécessaire, parfois longtemps retardée, ainsi que sa capacité à terme de porter des projets, l'obligeant peut-être à faire des choix. Deuxième point, le vieillissement des membres et le non-renouvellement générationnel, donc est un autre cas épineux. La crise du Covid-19 a également changé les habitudes du public. C'est le cas notamment des personnes âgées ou fragiles qui peuvent être rétives à revenir dans des espaces clos garnis de monde, même si la tendance est plutôt retour au statu quo ante. Il reste que le maintien des effectifs est un travail long et sinueux chaque année. Certes, il existe bel et bien un renouvellement, mais il n'est pas suffisant. Toutefois, comme je l'ai dit, la possibilité d'adhérer en ligne depuis notre site internet ouvre de nouvelles perspectives, mais les Landes n'accueillent pas à proprement dit d'université sur son territoire, et ne possède donc pas un vivier étudiant susceptible d'être capté. Les domaines de recherche des enseignants-chercheurs des universités de Pau et de Bordeaux, pour ne citer celles de l'ancienne région Aquitaine, concernent rarement les Landes, ce qui n'aide pas à susciter un intérêt chez les étudiants. Par ailleurs, ces derniers saisissent peu l'opportunité de valoriser leurs travaux de recherche quand nous leur en donnons la possibilité. Néanmoins, il est avéré que les jeunes chercheurs n'adoptent pas l'ensemble des comportements de leurs aînés parce qu'ils sont souvent en situation précaire ou sans travail, ou en contrat de travail pérenne. Ils communiquent bien plus souvent au travers des réseaux sociaux où ils sont parfois entre eux et ne sont pas forcément enclins à rejoindre des communautés établies. L'adhésion à une société savante via le paiement d'une cotisation annuelle pour appartenir à une communauté n'est plus immédiate pour les nouvelles générations malgré des prix attractifs proposés. Cette adhésion apportait autrefois le privilège de recevoir une ou plusieurs revues en format papier, privilège qui s'amenuise car les articles sont de plus en plus souvent en accès libre sur Internet via des plateformes. Quant à l'enseignement secondaire, il reste à la discrétion des professeurs et des directeurs d'établissement. La cité de Borda partage le même nom qu'un lycée à Dax ou qu'une classe de défense d'un collège de Cabreton. Mais les échanges sont rares ou sans lendemain, faute d'une volonté partagée. Troisième point, la baisse des financements publics est un indicateur à prendre en compte. Elle souligne le recul de l'importance d'une société savante aux yeux des pouvoirs publics qui ne lui accordent plus que la place qu'ils veulent bien lui accorder. Ils la mettent également dans une situation délicate au moment où elle est confrontée à la baisse des cotisations, sa première source de revenus. Et donc, la société de Borda, elle, n'a plus le soutien de son conseil départemental, sauf au travers de sa politique d'aide à l'édition. Elle a vu sa subvention municipale baisser avec les années et le tarissement des autres subventions par esprit de clocher ou par souci d'économie. Ces diminutions ou disparitions progressives ont poussé Borda à trouver d'autres sources de financement tout en rationalisant ses dépenses. Le mécénat privé a été une réponse, mais qui n'a pas été suffisamment poussé à l'heure actuelle pour établir de nouveaux partenariats. Le développement d'un pôle édition est un auxiliaire important, mais qui convient d'alimenter chaque année de nouveaux titres attrayants sous peine de voir à terme son catalogue vieillir. Tous ces titres sont exposés au public lors des réunions décentralisées et dans les salons du livre où Borda a son stand. Depuis peu, il est possible de les acheter directement, tout comme le bulletin, sur notre site internet. La braderie de livres surnuméraires et la vente de bulletins anciens effectués chaque année sont une source de revenus à prendre en compte. Malgré tout, une hausse mesurée des cotisations a été jugée nécessaire. Un appel aux dons peut être une solution envisagée pour des projets précis, mais il reste encore un exercice délicat. Enfin, quatrième et dernier point, la révolution numérique est un tournant à ne pas manquer. Les sociétés savantes ne sont plus des îlots de tradition immuable, d'où l'informatique serait bannie. Les nouvelles technologies offrent des opportunités aux sociétés savantes pour atteindre d'autres cibles et un public plus large de citoyens avertis. Cela peut se faire au travers des actions de communication, de vulgarisation, de diffusion des connaissances et de mise à disposition des ressources partagées. Borda est présente sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter depuis 2018. Tout comme les plateformes de partage, les réseaux sociaux ont un rôle à jouer dans la diffusion des activités et des publications auprès des internautes. Elles suscitent un intérêt certain en captant un large public et, parfois, permettent leur reprise par des médias numériques. Le manque de résonance des activités des sociétés savantes n'est pas une problématique nouvelle, mais elle peut être parfois palliée par l'envoi de communiqués de presse aux correspondants locaux du quotidien régional, aux offices de tourisme communautaire et aux mairies d'accueil. Une lettre d'information trimestrielle est également envoyée à un large public au-delà des adhérents et des partenaires. Pour Borda, cette révolution numérique passe aussi par un nouveau site internet qui doit être la vitrine. Il doit être plus ergonomique, mais aussi être un instrument de recherche valorisant ses collections en cours de récollement. Cela passe par la mise en ligne du catalogue de sa bibliothèque patrimoniale, de l'inventaire de ses fonds d'archives, de sa cartothèque et photothèque. Un index des publications des 20 dernières années ainsi que des tables se trouvent déjà sur notre site actuel. Une campagne a été également entreprise avec la Bibliothèque nationale France pour la numérisation sur Gallica d'une nouvelle tranche périodique du bulletin allant de 1946 à 1965. Tous ces éléments doivent donner à nos collections une meilleure visibilité pour les chercheurs et curieux afin de susciter de nouveaux travaux, mais aussi de donner une meilleure image d'une société vivant avec son siècle. Toujours est-il que les sociétés savantes disposent encore de plusieurs atouts. La commensalité savante, la construction fédérée d'un savoir qu'elles partagent avec d'autres organismes et institutions, l'expertise scientifique, des ressources, bibliothèques, fonds d'archives, collections, outils de référence, et parfois le poids de leurs adhérents. Elles sont en mesure de proposer dans toute la profondeur de leur aire d'influence une documentation globale qu'elles sélectionnent, interprètent, organisent. Elle continue d'affirmer que le localisme ne signifie pas compartimentage. C'est cette expertise qui donne la légitimité à la société de Borda, mais aussi à d'autres sociétés savantes dans leur aire d'influence, lorsqu'elle s'exprime qu'il vaut d'être consultée et reconnue comme une organisation fiable qui développe et diffuse les savoirs. La qualité et la gestion de ce savoir à l'heure où la désinformation sait se saisir des possibilités offertes par Internet représentent un enjeu de société important vis-à-vis duquel les sociétés savantes ont un rôle à jouer. Il n'en reste pas moins que la rude concurrence d'une culture populaire, incarnée par le triptyque, je dirais, rugby, feria, tauromachie, qui est grandement relayé par les médias, a tôt fait de renvoyer les sociétés savantes à une culture élitiste, voire passéiste. Pourtant, la société de Borda n'a jamais manqué de s'intéresser à ces sujets, comme en témoignent les publications sur le centenaire des arènes de Dax en 2013, de Gabaret en 2014, ou une biographie sur André Darrigade à l'occasion du passage du Tour de France à Dax en 2023, ou des articles sur l'histoire de clubs de rugby et sur la course landaise. On a aussi beaucoup parlé de patrimoine, encore faut-il le connaître, le respecter et le protéger. Le rôle de notre société savante est capital dans ce concept, mais à l'heure de la médiatisation à outrance ou de la culture de l'instant, la lecture posée et réfléchie existe-t-elle encore? Merci.
La société de Borda, un patrimoine landais au XXIe siècle. Vous venez de suivre l'intervention de Gonzague Espinoza dans son Neuville, docteur en histoire, auteur et président de la société de Borda. Les 150 ans de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, société savante et personnalité régionale. Rencontre scientifique organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, novembre 1873-novembre 2023, avec le concours de la ville de Bayonne. Les 150 ans de la SSLA à la Maison des associations de Bayonne, les 22 et 23 novembre 2023. Retrouvez toutes les interventions sur le site internet de Radio Lapourdi, www.lapourdi.net.